Radio J.
Livre au Café des Psaumes. Radio J.
Bonsoir, bienvenue à l'émission Livre au Café des Psaumes. Ici Yonkel Fijalkov, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Jacob Rogozinski, professeur à l'Université de Strasbourg, philosophe, et qui vient aujourd'hui nous parler de sa lecture d'un chapitre fondamental de la Bible, l'Exode. Son livre est publié aux éditions du CERF. Il s'intitule « Moïse l'insurgé ». C'est un ouvrage de philosophie avec beaucoup de références en archéologie et j'oserais dire même mêlant les deux, avec une attention particulière à l'égard des mythes qui circulent dans le bassin méditerranéen. Bref, c'est un livre passionnant. Alors, Jacob Rogozinski, bonsoir. Vous n'êtes pas le premier à avoir écrit sur la grande figure de Moïse. Il y a eu par exemple Freud. Qu'est-ce qui vous a conduit à reprendre ce récit ?
Oui, bon, en un certain sens, je pense que ce récit-là, je le porte avec moi, il m'accompagne depuis toujours, comme nous tous, comme tous les Juifs. C'est comme une figure fondamentale. Alors, pourquoi spécialement Moïse à ce moment-là ? C'est difficile à dire. J'avais essayé de réfléchir à la question de l'émancipation depuis plusieurs années. Et bon, la figure de Moïse a fini par s'imposer à moi. On avait commencé à travailler à ce texte avec quelques amis. Puis très vite, je me suis aperçu qu'il y avait des choses très étranges, très très étranges. Bon, par exemple, comme vous savez, chaque fois qu'un personnage important surgit dans la Torah, il y a une généalogie qui est présentée, c'est aussi vrai dans les évangiles d'ailleurs. Bon, un tel engendra un tel, qui engendra un tel, qui engendra un tel, etc. Bon, pour rattacher à une origine très prestigieuse, Adam, Abraham. Et là, bon, on ouvre le texte, qu'on voit, un homme de la maison de Lévi vient. Il prend une femme de la maison de Lévi, elle conçoit, elle enfante, c'est un fils, il est beau. Généalogie zéro. On n'a pas le nom du père, on n'a pas le nom de la mère, et on n'a pas le nom de l'enfant. Parce que dans tous les autres cas, lorsque l'enfant naît, le père ou le plus souvent la mère crie son nom. Et ça a un sens très très fort. Ici, il n'est pas nommé. Donc, absence totale de nom. Bon, très étrange. Alors tout ce qu'on sait, c'est que c'est des gens de la famille de Lévi. La maison de Lévi, c'est-à-dire la tribu de Lévi. Or, bon, là, il faut faire un petit flashback. Hein, à la fin de Genèse, hein, de Bereshit, la tribu de Lévi est une tribu maudite par Jacob sur son lit de mort. Donc un enfant né sans nom, de parents inconnus, pas forcément marié, il prie une femme, bon, c'est une expression compliquée. Enfin, parfois, ça peut signifier un mariage, mais parfois, ça peut signifier un viol, un adultère, donc quelque chose de très, très obscur, en tout cas. Et l'enfant n'est pas nommé, et tout ce qu'on sait, c'est qu'il est issu d'une tribu maudite. Bon, mauvais départ pour un prophète. Il y a là quelque chose de très, très étrange. Et donc ça m'a intrigué. Je me suis dit, bon, voilà un texte qui était lu, relu pendant plus de 20 siècles, commenté des dizaines, des centaines, compté des milliers de fois jusqu'à Freud et au-delà, etc. Et puis ça commence par une énigme. Et donc, moi, bon, voilà, les énigmes m'intéressent. Donc j'ai eu envie de creuser un petit peu plus l'énigme.
Alors vous creusez tellement que vous dites, finalement, c'est un lépreux et il est issu d'un inceste.
Alors ça, c'est pas moi, c'est la Torah qui le dit. Hein. Parce qu'un peu plus loin, bon, ça, on est au chapitre 1, bon, plus loin qu'on passe au chapitre 6, mais longtemps après, il s'est déjà enfui en Madiane, il a reçu la révélation du nom, il est revenu vers son peuple, il est parti voir Pharaon, et là, tout à coup, le texte interpole une généalogie, comme pour se rattraper de ne pas l'avoir donné au départ. Bon. Et là, il est dit que son père, Amram, donc on découvre enfin le nom de son père, prit comme femme sa tante Yokeved. Bon, voilà un homme qui a épousé sa tante, inceste. Alors il y a des gens qui ont ergoté, qui ont dit « Ah mais non, à cette époque-là, c'était permis, dit le Talmud. » Bon, c'est comme un inceste, c'est pas rien. Alors la lèpre, il est dit, première traduction, clairement Moïse a été atteint de Tsaraat. Alors Tsaraat, ça a été traduit par lépra en grec... Une maladie de peau pas très identifiable, en tout cas source d'une très grande souillure, hein, qu'on le voit clairement dans Vaïkra, dans Lévitique. Bon, les gens atteints de Tsaraat, ils sont obligés de se purifier de différentes façons. Alors bien sûr, ça dure très peu de temps.
Ça fait l'objet d'exclusion.
Oui, bien sûr, ben tout oui. À fait. Donc c'est un exclu. Alors dans le texte de Shemot, fin d'Exode, ça dure très peu de temps, c'est un miracle. Mets la main sur ton sein, dit Hachem, il met la main sur son sein, sors-la de ton sein, il la sort, et voilà, elle est blanche de lèpre, blanche de Tsaraat. Remets la main sur ton sein, puis là, hop, c'est parti. Mais quand même, bon, ça a duré quelques temps, quelques secondes, quelques minutes, il était Metzoraat, hein, de Tsaraat. Et après, on apprend un peu plus loin dans Nombre, Bamidbar, on apprend que sa sœur Myriam est elle aussi atteinte de Tsaraat. Donc ça pourrait être une famille de lépreux ou d'impurs. Alors, enfant de l'inceste, donc déjà contaminé en quelque sorte par l'impureté de ses parents, né de père et de mère inconnus, dans une tribu maudite, atteint d'une maladie qui rend souillé, impur, la barque est très chargée pour un prophète. Donc c'est très énigmatique. Je me dis, mais pourquoi est-ce que le texte nous dit tout ça? Parce qu'ils auraient très bien pu effacer ça. Ils auraient pu effectivement brosser la figure d'un héros victorieux. Bon, en plus, on apprend qu'il était lourd de langue. Il le dit, je suis lourd de langue.
Oui, ça c'est bien connu, par contre.
Alors, est-ce qu'il était bègue? Ou est-ce que, comme le suggère Freud, c'était un étranger qui n'arrivait pas à parler clairement et rapidement, fluently, à la langue des Hébreux? Possible. Ça, c'est la thèse de Freud, Moïse égyptien. Bon, on ne sait pas. Enfin, mais pour un prophète, être lourd de langue, c'est gênant. C'est gênant. Bon, donc, il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens d'un anti-héros, d'une figure d'impur, trois fois impur, gravement chargé. Voilà. Donc, pourquoi? Donc, c'est ça un petit peu qui m'a...
Voilà. Alors, votre livre, c'est vraiment peut-être un roman policier, pratiquement, ouais. Puisque, bon, on a ce personnage.
Ah oui, tout à fait. Moi, à un moment donné, j'ai dit roman historique. C'est une manière de parodier Freud qui disait que son livre est un roman historique. J'aimerais que... Bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont lu le livre ici, mais j'aimerais qu'on le lise comme un roman.
Oui.
C'est un livre que j'ai essayé de le rendre le plus clair, le plus lisible possible. Et le point de départ, effectivement, c'est une énigme, comme dans un polar.
Voilà. Alors, l'autre énigme, c'est que vous ne restez pas dans les textes. Ouais. Vous sortez, vous allez voir l'archéologie. Et l'archéologie, quand même, renverse aussi un récit, quand même, qui est le récit hébraïque de l'Exode. C'est-à-dire, si je résume en deux mots, nous ne sommes pas sortis d'Égypte.
Voilà.
Qu'est-ce qui vous permet de dire ça?
On n'en est toujours pas sortis.
Nous ne sommes pas sortis d'Égypte. C'est ce que dit l'archéologie. Enfin, bon, voilà.
L'archéologie et l'histoire. Je résume rapidement les arguments. Au début, je ne voulais pas m'occuper de ça. Je me dis, bon, les archéologues, on les laisse. Puis je me suis aperçu que dans l'opinion dominante, l'opinion commune aujourd'hui, dans les médias, etc., ce qui domine, bon, c'est ce qu'on appelle les historiens minimalistes ou les archéologues minimalistes, Finkelstein, Zilberman, des gens comme ça, qui disent, bon, tout ceci, fake news. C'est un ensemble de vieilles traditions orales, de contes et légendes qui auraient été compilés par écrit très tard, le plus tard possible, après le retour de l'exil à Babylone, en projetant dans le passé des événements ou des conjonctures du présent, etc. Donc un ensemble de fictions. Moïse n'a jamais existé, tout ceci n'a pas eu lieu. Je dis, bon, ces gens-là, il faut quand même les affronter sur leur terrain. Ne pas se contenter de réciter à nouveau le texte, de commenter des commentaires, de commentaires, de commentaires, etc. Mais voir si s'est passé réellement quelque chose et quoi.
Bon, alors l'archéologie a-t-elle des traces ou pas?
Des traces qui vont plutôt dans le mauvais sens.
Voilà.
C'est ce que j'appelle l'argument de Jean Valjean, pour faire vite. Hein. Imaginez que Jean Valjean, le héros des Misérables, réussisse à s'arracher, à briser ses chaînes, à s'arracher du bagne de Toulon et avec quelques... compagnon d'infortune, va faire un immense exode, un immense périple à travers l'Espagne, le Maghreb, et il arrive enfin en terre promise, en Algérie française. Problème. Problème. Et effectivement, ce que je veux dire par là, c'est que dans toute la période, la longue période de 4 ou 5 siècles où les historiens tentent de situer l'exode, Canaan était une province égyptienne, une colonie égyptienne. Donc s'évader d'Égypte pour arriver en Canaan, ça revient à aller de Toulon, l'Algérie française. Donc ça va pas, c'est pas ça. C'est
alors
pas ça.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah voilà. Alors là, il faut creuser. Bon, et là, l'archéologie donne des éléments très très intéressants. Parce que cette colonisation, elle a eu un terme aux environs du XIIe siècle avant l'ère commune, hein, bien sûr. Hein. Là, il y a une grande crise régionale, un effondrement systémique lié à un réchauffement climatique, à des pandémies. Bon, on n'est pas très loin de nous, hein, cette histoire nous parle aussi d'une manière ou d'une autre. Mais bref, l'Égypte, qui est en crise, se retire de Canaan. Alors Canaan était... il y avait des cités, des puissantes cités, des cités-états, gouvernées par des rois qui étaient des vassaux du pharaon. On a toute une série de documents très intéressants, non bibliques, hein, des documents extra-bibliques, dans lesquels les petits rois de Canaan écrivent au pharaon en pleurnichant, en disant « Oui, il y a une révolution, c'est pas possible. » Les Habirous, voilà.
Ah, les Habirous, c'est presque les Hébreux.
Eh ben voilà. ils soulèvent les paysans et les esclaves contre nous, ils prennent les villes les unes après les autres, ils tuent les rois comme des chiens, ils tuent les rois comme des chiens. Au secours, Pharaon, envoie-nous une armée pour nous protéger des Abirous. Tiens, ok. Ça, c'est vers le XIVe siècle, hein, donc un peu deux siècles avant, à l'époque d'Akhenaton. Donc il y a eu un grand soulèvement conduit par des éléments qu'on appelait Abirous. Et on a des textes sur eux. C'est pas une tribu, c'est pas une ethnie, on peut traduire ça par racaille. Voilà, c'est la racaille.
Oui, c'est les gilets jaunes, quoi.
Voilà, c'est ça. Oui, on peut dire ça, voilà, c'est Moïse, gilet jaune. Quand j'étais passé sur une autre radio juive, la personne tout à fait charmante qui m'interrogeait m'a dit « Mais écoutez, votre Moïse, il ressemble un peu trop à Jean-Luc Mélenchon. »
Je dirais pas ça, quand même.
C'était pas un compliment, c'était pas un compliment dans sa bouche. J'ai dit, écoutez, bon, bah, d'après les textes, Moïse avait mauvais caractère, donc ils ont au moins un point commun, quoi. Bon.
Mais...
Donc, voilà, révolution de Abirous. Excusez-moi, j'essaie de terminer un petit peu ce passage-là. Ça, c'est attesté par des textes, hein, des textes extra-bibliques, nombreux, précis. Il y a des éléments déclassés de la société de Canaan et de la région qui avaient soulevé le peuple contre les petits rois. Et après, bon, au XIIe siècle, qu'est-ce qu'on découvre? Ces cités-États brûlent les unes après les autres. Alors, les archéologues discutent, bon, qui c'est qui a brûlé ces cités? Est-ce que c'est la mythique armée de Josué dont parle la Torah? Bon. Ou est-ce que c'est autre chose, les envahisseurs étrangers? Alors là, j'ai trouvé des textes d'archéologues contemporains, une archéologue israélienne qui a travaillé sur les fouilles de la cité de Hatzor en Galilée, qui était quasiment la capitale de la région. Elle dit, ben non, pas d'invasion extérieure, puisqu'il n'y a pas de traces d'armes ou de squelettes aux murailles. En revanche, le palais royal a été brûlé. Les grandes maisons des nobles et des aristocrates ont été brûlées. Le grand temple a été désacralisé. Les statues des dieux ont été renversées et décapitées. Et on a martelé le nom d'un pharaon sur un sphinx. Elle dit donc que c'est une révolution populaire, une insurrection, puisque les maisons du petit peuple n'ont pas été brûlées. Donc ça ressemble tout à fait à une révolution. Bon, donc il y a des gens qui ont... Peut-être ces fameux Abirous qui ont pratiqué à ce moment-là ce qu'ont fait les sans-culottes tout près d'ici à Notre-Dame en 1793 en décapitant les statues des rois sur le portail. Donc ça ressemble à une révolution politique et sociale et religieuse.
Voilà, c'est presque un mouvement décolonial. Et alors ce que vous racontez,
aussi.
Voilà, ce que vous racontez, c'est que finalement pendant deux siècles, alors, vous n'êtes pas le premier à le raconter. Il y a le chercheur américain Eric Nelson, Vincent Peillon, qui est venu ici il n'y a pas longtemps, a repris effectivement ça. C'est cette fameuse République des Hébreux qui dure pendant deux siècles et qui est composée, je dirais, bon, c'est des espèces de théodémocratie ou même presque, j'oserais dire, de communauté anarchiste. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
Là, on est face à une difficulté, c'est qu'on n'a pas de traces. On n'a pas de traces écrites. Parce que les scribes étaient des gens qui étaient au service des rois. Et donc, lorsque les rois sont balayés, les scribes disparaissent. Et donc, pendant deux siècles, on a très peu de traces. Deux siècles et demi plus tard, un palais royal surgit du côté de Samarie. Donc la monarchie était restaurée. Donc il y a un trou de deux siècles. Et là, bon, je pense que le seul document qui nous vient de cette époque-là, là, pour le coup, c'est la Torah. C'est le livre des juges. Et ça décrit une confédération de tribus très décentralisées qui, de temps à autre, choisit un chef, à peu près comme Vercingétorix chez les Gaulois, pour résister à une invasion étrangère. Alors il y a le cas remarquable de Gédéon, là il réussit à vaincre les Madianites, et là le peuple lui dit « Deviens notre roi et règne sur nous, toi et tes descendants ». Et il répond « Je ne régnerai pas sur vous, ni aucun de mes fils, votre roi, c'est Hachem, c'est Dieu ».
Voilà, ça donc, c'est la théodémocratie.
Voilà.
Et derrière la théodémocratie, il y a quand même des règles, le Shabbat, je crois, le droit du sol, les jachères, et puis il y a l'accueil de l'immigré, puisque l'immigré, si j'ai bien compris dans cette République des Hébreux, l'immigré est un invité.
C'est-à-dire là, on ne sait pas trop, puisqu'on n'a pas de texte contemporain, comme je l'ai dit, mais on a les textes écrits quelques siècles après, qui sont les textes de la Torah, et qui marquent, une rupture totale avec toute la législation des peuples environnants.
Voilà.
L'esclave est émancipé au bout de... Oui, l'esclave, on peut dire ça comme ça. Bon, est émancipé au bout de 7 ans. Le Shabbat est instauré aussi pour qu'ils reprennent leur souffle, ton serviteur et aussi ton âne, etc. Donc même les animaux doivent se reposer. Il y a la règle du jubilé, effectivement, qui fait que tous les 7 fois 7 ans, les terres qui ont été spoliées sont rendues à leur premier acquéreur et tous les les serviteurs sont affranchis. Donc il y a une législation sociale, on peut le dire, extrêmement forte.
Voilà, pendant deux siècles.
Ouais. Il peut sembler, puisque effectivement, au bout de deux siècles, la monarchie est restaurée. Et ça, la Torah en parle dans le premier livre de Samuel. Et le peuple vient voir Samuel en demandant encore une fois un roi.
Alors, le fameux texte de Samuel, parce que le fameux texte de Samuel, effectivement, le peuple demande un roi.
Et que répond Samuel ? Il fait un discours d'une virulence extrême contre la monarchie, contre le caractère oppressif, exploiteur, prédateur de la monarchie. Et ça, c'est un texte unique dans toute l'Antiquité. Il faudra attendre une vingtaine de siècles, même plus, pour qu'il y ait le traité de la servitude volontaire de la Boétie au XVIe siècle chez nous. Une dénonciation de la servitude volontaire, c'est-à-dire de la propension qu'ont les hommes à se soumettre au prestige d'un chef.
Voilà. J'ai pas pu m'empêcher, Jacob Rosinski, en lisant ce passage, de penser à l'actualité israélienne avec les juges contre notre pensée, disons, d'organisation des pouvoirs.
Ouais, là, avec une petite réserve quand même, c'est que les juges, les shoftim dont parle la Bible, sont pas des magistrats. C'est un nom qu'on a trouvé comme ça, dans sans doute la traduction en grec, j'imagine, pour traduire shoftim. Ce sont des chefs charismatiques désignés par le peuple, c'est-à-dire en fait, par Hachem, c'est le peuple qui les désigne, qui ne sont pas des rois, ça c'est important, qui sont investis par le souffle divin pour combattre les ennemis, mais quand même. Si vous voulez, il y a un auteur qui m'a beaucoup servi, sans doute celui que j'ai le plus utilisé dans ce passage-là, c'est Spinoza. Un auteur pas très cachère, comme vous savez, mais dans le traité théologico-politique, il y a un passage magnifique sur ce qu'il appelle la République des Hébreux.
Voilà.
Il analyse l'alliance, Bérit, et il dit, c'est une alliance dans laquelle tout le peuple, librement, a renoncé à sa puissance pour la transférer à son Dieu, et il dit « ut in democratia », comme dans une démocratie. C'est pour ça que j'ai forgé ce concept un peu biscornu de théodémocratie. Donc, que Spinoza dit, c'est une théocratie, puisque tout le pouvoir appartient à Dieu. Mais aujourd'hui, quand on dit théocratie, on pense aux talibans ou au régime des mollahs iraniens, donc c'est pas bonne presse. Mais là, c'est une théocratie directe, démocratique. C'est pas le pouvoir d'une caste de prêtres, de mollahs ou de... peu importe, mais c'est le pouvoir donné à Dieu, ce qui signifie qu'aucun homme ne peut occuper la place souveraine. Donc là, c'est une démocratie au sens strict du terme, à la fois libre et égale. Alors là, on en vient à cette question que vous soulevez. Spinoza est assez critique par rapport à Moïse. Il dit, là, il a voulu occuper la place suprême en se prétendant le seul dépositaire de la parole de son Dieu. Donc il soupçonne Moïse d'avoir tenté d'usurper... il dit, mais quand même, Moïse... Avant de mourir, il a divisé les pouvoirs. D'un côté, il donne le pouvoir politico-militaire à Josué, l'autre côté, le pouvoir religieux à son frère Aaron. Division des pouvoirs, et ça a fondé la République des Hébreux pour une longue période. Et c'est ce qui a fait de ce peuple-là un peuple élu par l'excellence de son régime politique. Parce que pour Spinoza, l'élection a un sens essentiellement politique. Division des pouvoirs. Alors moi je dis, ça c'est très très beau et très clair. Ça signifie que les gens qui veulent anéantir la division des pouvoirs, par exemple, prenons ça par hypothèse, en reniant les capacités le pouvoir d'une Cour suprême, ça peut arriver ce genre de choses. Les gens qui veulent anéantir la division des pouvoirs, ils vont contre la loi de Moïse. C'est des gens qui blasphèment, qui commettent un blasphème par rapport à l'enseignement de la Torah. Ça il faut le dire et le redire sur tous les tons.
C'est la Torah de Jacob Rogozinski, c'est pas la Torah des ministres suprémacistes.
Oui, c'est pas la Torah de Bezalel Smotrich, mais c'est pas ma Torah à moi, c'est ce que dit le texte.
Oui.
Le texte hébraïque, tel qu'il était relu par un lecteur de génie comme Spinoza.
Oui.
Et effectivement, cette théodémocratie, ça peut paraître tellement extravagant qu'on a l'impression que c'est une hypothèse farfelue.
Alors, elle a tenu deux siècles, mais elle s'est arrêtée.
Voilà. Écoutez, la Commune de Paris a tenu 70 jours. L'élan libertaire de la Révolution russe a tenu pendant quelques mois, entre février et octobre 1917. Tenir deux siècles, c'est pas mal. Dans un environnement totalement hostile, composé uniquement de monarchies sacrées, dans lequel le roi est considéré comme un dieu, comme le pharaon ou le roi de Babylone, etc. Là, il y avait vraiment quelque chose de très très intéressant. Alors, pour rendre ça plus solide, j'ai fait un petit détour par l'anthropologie.
Oui.
Alors, j'ai fait l'anthropologie comparée et je me suis aperçu qu'au fond, c'est arrivé aussi ailleurs. Il y a un chapitre que j'ai appelé Moïse en Indochine. Je voulais l'appeler Moïse en Amazonie, puis je trouvais que l'Indochine, finalement, c'était pas mal aussi. Bah, bon, c'est parce qu'en fait, en Amazonie, chez les Indiens d'Amazonie, comme en Indochine, dans les hauts plateaux du nord de l'Indochine, ça, les anthropologues ont fait des travaux très précis là-dessus. Il y a eu des communautés, il y a encore des résidus de communautés qui sont construites contre l'État.
Oui, bien sûr. Pierre
voilà. Clastre, et qui ont créé, bon, Pierre Clastre pour les Indiens, James Scott pour la Zomia, les hauts plateaux d'Indochine. Donc il y a eu des prophètes qui ont soulevé le peuple, qui ont créé des communautés égalitaires, sans État, qui ont résisté à la pression des empires de la plaine, en créant des religions nouvelles, d'ailleurs, très souvent. Donc il y a d'autres exemples.
Oui, il y a d'autres exemples, voilà. Mais bon...
C'est donc possible, c'est possible.
Pour revenir quand même à la tradition juive, quand même... Vous vous rendez compte quand même que vous bouleversez le Seder de Pessah. Vous vous rendez compte que Zerach Letziati Mitzrayim, souviens-toi que tu es sorti du pays d'Égypte, prononcé à Shabbat, etc. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Comment ça se fait qu'on ait inversé le récit de cette manière-là?
Vous savez, lorsque on m'a invité à présenter mes recherches à Shavuot dans une soirée d'études dans la communauté libérale dont je fais partie à Strasbourg.
Vous avez dû traumatiser des gens.
Alors voilà, il y avait une dame très charmante qui était au bord des larmes et qui a dit mais alors si ce que tu dis est vrai, alors la Torah nous a menti. Alors je dis mais non, au contraire, elle dit la vérité. Simplement, bon, il faut entendre autrement le sens des mots. Mitzrayim, c'est la maison de servitude, c'est avant tout ça. L'Égypte, c'est la maison de servitude. Et c'est la soumission à un roi-dieu divinisé. Et c'est l'esclavage pour le peuple. Et effectivement, bon, le peuple des Abirou, ou Ivrites, des Hébreux Abirou, est sorti de la maison de servitude pour rentrer dans une terre promise où règne l'égalité et la justice. Mais cette terre de Canaan, c'est la même que Mitzrayim. Simplement, bon, il y a eu un changement historique. Un passage historique d'un régime d'oppression à un régime de liberté. Et ça a été transposé de manière un peu déformée, mais au fond, très légèrement déformée, hein, dans le récit, où c'est devenu une transition non pas historique, mais spatiale, une migration. Pourquoi? Ça, c'est une vraie question. Bah, moi, je pense que la réponse est assez simple, hein, c'est que la Torah a été rédigée sans doute à la fin de l'époque des rois, ou un peu après, donc par des scribes au service des rois de Juda, qui n'avaient pas envie de raconter l'histoire d'une révolution où, comme disent les textes de l'époque, les insurgés tuaient les rois comme des chiens. Bon, ça, les rois n'aiment pas ce genre de récit-là. Donc les scribes au service des rois ont modifié un petit peu la chose. Et en plus, ça avait l'avantage de présenter ce qui est au fond une coalition hétéroclite, hétérogène, d'esclaves révoltés, de paysans endettés, de racailles hors la loi, etc. Ça avait l'avantage de le présenter comme une ethnie, une unité ethnique fondamentale.
Oui, voilà, c'est une belle histoire, bien sûr.
Voilà, c'était donc les suprémacistes de l'époque ont voulu fonder sur une base ethnique, entre guillemets raciale, ce qui au départ était une coalition d'insurgés.
Oui, alors là, vous faites bien une distinction entre le peuple avec et le peuple corps.
Tout à fait, mais ça c'est dans les textes, hein. Moi je reste très fidèle aux textes. Il y a deux mots pour désigner le peuple dans la Bible, il y a « Ham » et il y a « Goy ». Alors bien sûr les Hébreux sont des goïmes, ça faut le dire et le redire. Hein. C'est-à-dire, bon, vous serez pour moi un peuple de prêtres et une nation sainte, goïm kadosh. Donc dès le départ, Hachem assigne aux Hébreux le destin d'être des goïmes comme les autres, mais... Kadosh, donc avec une certaine différence. Mais c'est quoi Goy? Ça renvoie à la racine de Gviya, c'est-à-dire le corps. Alors que Am renvoie sans doute à la racine Im, à la préposition qui veut dire avec. Donc il y a deux manières de penser le peuple. Penser le peuple comme un corps politique, et un corps en général ça a une tête, autrement ça ne marche pas trop. Et la tête souvent c'est un roi, ou un chef, ou un président de la République, etc., qui tend très souvent à se couper du peuple, à prononcer des 49-3, des choses comme ça. Ça arrive aussi. Et à côté de ça, on a le peuple comme âme, hein, le peuple comme être avec, comme communauté primordiale des gens qui sont avec, c'est-à-dire qui passent alliance contre l'oppression. Et ça arrive tout le temps, y compris dans les rues de Paris et d'ailleurs, lorsque des gens se mettent en route, en mouvement, contre ce qui leur paraît être injuste. Là, ça recrée un peuple avec. C'est ce qui se passe aussi chaque semaine en Israël. Ça recrée le peuple âme. un peuple qui s'oppose à l'injustice, qui défend la démocratie, en se mettant ensemble, en se mettant avec. Et ça, c'est le sens fort, le sens premier de l'alliance.
Oui, et la cerise sur le gâteau dans, oui. votre, dans votre ouvrage, la fin du roman... du roman historique ou du jeu de détective, c'est le dieu. Alors vous dites ouais. le dieu dans votre ouais. ouvrage.
Oui, j'aime pas le mot dieu.
Alors qui est ce dieu, le dieu ?
Dans la Torah, parfois, il dit Ha Elohim, pas souvent, mais ça existe. En grec, c'est Hoteos. Donc le dieu, c'est pas mal. Ça signifie c'est le dieu de Moïse ou le dieu de David ou d'Abraham, etc. Ça permet d'éviter une sorte de... Quand on dit dieu, on croit qu'on sait qui c'est. Mais on ne sait pas qui c'est. Alors, le point central, je crois, de ce livre, hein, ce que j'ai voulu montrer, c'est que le Dieu de Moïse, c'est avant tout un Dieu libérateur. Lorsqu'il se présente à son peuple, au moment solennel où il va énoncer les 10 paroles, il ne dit pas « je suis le roi de l'univers », il ne dit pas « je suis le créateur de l'univers », il ne dit pas « je suis votre père », rien de tout ça. Hein. Il ne dit même pas non plus « je suis un Dieu d'amour », il n'est pas encore chrétien. Bon, bien. Il dit « je suis celui qui t'a fait sortir de Mitzrayim, d'Égypte, de la maison d'esclavage ». Voilà, il se présente uniquement par cet unique trait, hein, « je suis le libérateur ».
C'est un Dieu performatif.
Ah oui, très clairement, oui. Ben, tout est performatif dans ce genre de texte. Hein. C'est-à-dire, voilà. Fin... Non, moi je pense que, enfin mon hypothèse, hein, c'est que... celui qu'on appelle Moïse, selon la tradition, pourquoi leur refuser ce nom ? C'est quelqu'un qui, dans le courant de cette révolution, à la fois politique, sociale et religieuse, a introduit un dieu nouveau. Parce que si les révoltés étaient restés fidèles à l'ancienne religion cananéenne, la religion dont le dieu suprême s'appelle El, El, Elohim, bon, etc., dieu créateur, dieu père, dieu roi, c'est un dieu qui sanctifie l'injustice, c'est-à-dire la hiérarchie. Donc comment se révolter alors que Dieu proclame que le roi est son fils et son image, etc. Donc il fallait introduire une autre religion, une religion émancipatrice, libératrice, portée par un autre nom divin. Et l'histoire nous montre que ça n'arrive jamais tout seul. Bon, sans Paul de Tarse, pas de christianisme, sans Mahomet, pas d'islam, sans Luther, pas de réforme. Donc quelqu'un, il y a quelqu'un. À qui la tradition a attribué le nom ou le surnom égyptien de Moïse, il y a quelqu'un qui a introduit là, dans cette révolution, un dieu libérateur, un dieu qui ne sanctifie pas la hiérarchie sociale, mais qui appelle les opprimés à lutter pour la justice. Et cet homme-là a donc existé. Bon, on ne sait rien de lui, on ne sait même pas si ce surnom est vraiment son nom, on ne sait absolument rien, je ne suis pas sûr qu'on sache un jour quelque chose. Mais celui-là... On peut l'appeler Moïse, et il introduit ce Dieu nouveau, qui n'est pas le Dieu des pères, qui n'est pas le Dieu El Elohim, qui est un Dieu libérateur. Et pourquoi ne pas appeler cet homme-là Moïse ? Donc à la fin de mon enquête, j'en conclus que quelqu'un surnommé Moïse a dû exister à ce moment-là, hein, pour introduire ce Dieu et rendre possible cette révolution.
Oui. Et il nous reste quelques minutes. Oui. J'avais une petite question à vous poser, Jacob Rogozinski. C'est peut-être indiscret. Je ne sais pas. Mais finalement, bon, ce qui vous intéresse, c'est la question de l'émancipation. Vous posez la question et vous vous interrogez de savoir si la religion peut être émancipatrice. Et finalement, vous revenez vers le vieux livre. Est-ce que vous êtes finalement un Chozer Letshuva dans le retour à la religion ? C'est-à-dire le retour à la question ?
Bah oui, autrement, je n'aurais pas écrit ce livre. Au début, il y a une ou deux pages un peu autobiographiques, mais je ne voulais pas parler trop de moi. Quoi. C'est effectivement, j'ai lu ce livre et j'ai appris un peu. On a essayé de m'apprendre l'hébreu quand j'avais 7-8 ans, donc j'étais plongé dedans. Puis à un moment donné, j'ai fermé le livre et j'ai suivi d'autres livres qui parlaient de justice, de révolution prolétarienne, d'égalité entre les hommes. Ça me paraissait plus vrai, plus juste. Puis je me suis aperçu que je me trompais. Et donc j'ai rouvert le livre, le vieux livre. Et j'y ai trouvé au fond la même chose. J'y ai trouvé le même désir de justice, le même appel à une révolution, à l'égalité. Et donc finalement, bon, ben, la boucle est bouclée, quoi. Je veux dire, alors ça ne veut pas dire que je serais redevenu religieux au sens courant du terme, mais j'étais très heureux. Franchement, je ne pensais pas trouver ça quand j'ai commencé cette enquête. Je ne pensais pas trouver tout ça. Hein, je suis parti à l'aventure parce que un livre qu'on fait en sachant ce qu'on va écrire, ça ne fait pas un très bon livre. Voilà. Donc je suis parti là, à la recherche de Moïse, et ma grande surprise, j'ai trouvé tout ça. Je me dis, tiens, ok, bon, ben donc finalement, j'étais pas parti très loin, je n'avais pas faire un très long chemin pour revenir là d'où je venais.
Merci Jacob Rogozinski pour ce livre passionnant.
Merci à vous.
Et donc je rappelle le titre, Jacob Rogozinski, Moïse l'insurgé aux éditions du Cerf. La semaine prochaine, Antoine Spire reçoit Pascal Delpech pour son livre Extrait de naissance, l'histoire de Danilo Kiss aux éditions Noir et Blanc.
D'accord. Merci. Merci beaucoup.